Le canal. Michel Bory.
Je vous ai raconté le début du canal transhelvétique, qui à l'époque s'appelait le canal d'Entre-Roches, du nom du massif, enfin des collines qu'il faut traverser à peu près à hauteur de la Sarra et des Clépans. Et ce canal, 1635, la première idée, 1855, la fin du canal. Après, on oublie la voie navigable, mais elle va ressurgir bien des années après et ça va être sujet de notre entretien d'aujourd'hui. Le canal est abandonné vers 1855. Il faut attendre 1900 pour que l'idée ressurgisse. Il faut dire qu'en 1904, à Bâle, pour la première fois, des bateaux sont arrivés, des chalands sont arrivés avec des chargements de charbon. Avant, ce n'était pas possible, il y avait des récifs en Alsace. Et donc, Bâle n'a pas toujours été un port ouvert à la navigation. Il a fallu attendre que ces aménagements soient faits sur le cours du Rhin. C'est en 1904 que Bâle a commencé à servir de port, véritablement. Genève était aussi intéressée. Genève était très intéressée de devenir même un port de mer, en utilisant le Rhône. Et c'est à Genève, en 1910, que des ingénieurs, des hommes d'affaires, des politiciens se sont réunis pour lancer l'idée d'un canal transhelvétique, un canal qui permettrait de lier le lac Léman au bassin de l'Aar et du Rhin. Il faut dire que du côté du Rhône, là il y avait un problème, puisqu'il y avait les pertes du Rhône encore à cette époque, mais ce problème allait être réglé plus tard avec le barrage de Génissia qui a fait monter le niveau du Rhône, si bien qu'il n'y a plus de pertes du Rhône maintenant quand vous passez à Bellegarde. En fait, pour aller sur la Méditerranée, c'est tout droit, il n'y a qu'à descendre, il y a juste quelques barrages à camber, mais de Genève, en fait, du lac Léman à la Méditerranée, il n'y a techniquement pas de problème, il n'y a en fait que des écluses à construire. À l'époque, il s'agissait donc surtout, en ce qui concerne le percement d'un canal, de creuser un canal entre le lac Léman et le lac de Neuchâtel. Puisqu'après, c'est plus nécessaire. Il y a le lac de Neuchâtel, il y a le lac de Bienne, il y a l'Aar et il y a le Rhin. Il y a des aménagements à faire, mais il n'y a pas, à proprement parler, de canal, de voie navigable à creuser. Le seul gros chantier, c'est entre Saint-Sulpice. On a décidé que ce serait entre Saint-Sulpice et Prévranges que ce canal pourrait démarrer pour arriver à Grandson, entre Grandson et Yverdon. Dans les années 1950, on était assez avancé dans ce projet, puisque des plans ont été faits, des plans faits très très minutieusement, donc pas seulement le tracé est dessiné, mais même tous les ponts qui passent par-dessus le canal, toutes les écluses, tous les bâtiments de service autour des écluses, tout a été mis au point. Et vers 1954, on était prêt à réaliser ce canal dit d'Entre-Roches, en reprenant le nom du premier canal du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, finalement, ce projet si abouti au point que, plan du projet, que l'autoroute de contournement d'Yverdon, vous avez remarqué qu'elle est, on dit, aérienne, elle passe sur des piliers, quelques mètres au-dessus du sol de la plaine de l'Orbe, et qu'à un certain moment, ces piliers sont plus écartés qu'à d'autres, parce que on avait prévu là un aqueduc qui a été construit, en quelque sorte, pour que le canal puisse passer dessous. Juste, si vous êtes du côté de Chamart, la zone commerciale, je dirais devant le McDonald's, vous regardez vers la plaine de l'Orbe, vous voyez très bien que l'autoroute a des piliers juste devant vous, un écartement plus large, c'était le tracé du canal qui passait par là.
Thank you.
le canal transhelvétique allait se faire, mais après la construction des autoroutes. Donc il était mis de côté. Et puis, il y a eu un projet en France qui a été un coup dur pour le projet du transhelvétique. En 1978, la France a imaginé de percer un canal alors à grand gabarit, plus important que celui qui aurait été creusé en Suisse ou aménagé en Suisse, entre le bassin du Rhône et le bassin du Rhin, entre la Saône et le Rhin. Et on n'allait pas, évidemment, avoir une deuxième voie transcontinentale, fluviale, à quelque chose comme une centaine de kilomètres de distance. Ça n'avait pas de sens. Donc là, les enthousiasmes se sont éteints, bien que en 1992, il y a eu en Allemagne l'inauguration d'un canal extraordinaire qui était le résultat de l'ostpolitik du chancelier Brahm, c'est-à-dire le canal Rhin-Main-Danube, qui a été réalisé et qui fonctionne maintenant et qui permet donc, vous pouvez maintenant de Bâle aller à Vienne, aller à Istanbul par le Danube et la mer Noire. Donc si on avait créé ce canal transhelvétique éventuellement reliant la Méditerranée à Genève et Genève à Bâle, la Suisse se serait trouvée dans la position d'une sorte de giratoire fluvial au milieu de l'Europe, à côté de ce château d'eau qui permet aussi l'alimentation des canaux, puisque nous sommes en position très privilégiée avec les Alpes. Mais la sensibilité par rapport au canal, à l'eau transport sur l'eau, c'était complètement émoussé. Il faut dire aussi que la Confédération ne s'occupe pas directement des questions fluviales. Elle délègue cette préoccupation, ce souci, à la ville de Bâle, à la ville-canton de Bâle. Et Bâle, en fait, n'avait aucun intérêt à voir se développer un canal à travers la Suisse, Bâle ayant tout intérêt à rester le port terminal de la voie fluviale. Mais je vous raconterai la prochaine fois comment finalement le serpent de mer peut réémerger et qui, à mon avis, il est loin d'être complètement noyé. À tout bientôt sur Voxinox.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux. suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Que tous les jours semblent beaux, quand on se promène au bord de l'eau.